pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Après le capitalisme commercial au XVe siècle, le capitalisme industriel au XIXe siècle et le capitalisme financier à la fin du XXe siècle, voici le capitalisme philanthropique qui, tout en se disant humaniste, applique les stratégies du capitalisme financier à la pauvreté, l'éducation, le social, le sport, bref, à tous ces liens qui fondent une société. Pourquoi ceux qui ont le plus contribué à casser l'économie réelle sont-ils ceux qui, quelques années plus tard, prétendent résoudre la question sociale? Parce qu'ils estiment que le marché de la pauvreté représente entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars par an, soit plusieurs dizaines de fois le marché du luxe. Les grandes entreprises et leurs fondations, les fonds d'investissement, les start-up sociales, mais aussi des États et des associations internationales, élabore un hold-up sur le marché de la pauvreté, détournant le sens de mots tels qu'émancipation, environnement, écosystème, coopération, intérêt général et s'allient pour augmenter leur pouvoir au risque d'accroître toujours plus les inégalités et tuer le lien social. Et pour nous parler de cela aujourd'hui, on vous propose l'écoute d'une présentation d'un livre qui se passait à la médiathèque François Sagan, et cette présentation se tenait le 16 novembre 2022. Le titre de ce livre, Ruse de riche, pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde. Et ce livre est de Jean-François Draperie. Et donc on vous invite à l'écoute de cette présentation. Mais avant, petite chose, le crédit d'impôt. Toutes ces entreprises, elles ont besoin des subsides de l'État. Alors un crédit d'impôt, il y en a plusieurs en fait. Ça correspond à un montant que l'on soustrait en vertu de l'application d'un dispositif fiscal prévu par la loi de l'impôt qu'une entreprise doit payer en fonction de la nature de son activité et de ses conditions d'exercice. Une entreprise peut bénéficier de plusieurs crédits d'impôt. Nous retrouvons le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt apprentissage, le crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs, le crédit d'impôt export, le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, ainsi que de nombreux autres dispositifs. Comme quoi, nos chers patrons ne perdent rien en échange. Bonne écoute.
Je suis Françoise Pitra, du collectif d'associations Ensemble, nous sommes le 10e. Et nous sommes très heureux et ravis d'être réunis ce soir autour du livre qui s'intitule « Ruse de riches, pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde ?» et d'accueillir l'auteur, Jean-François Draperie, qui est fondateur et ancien directeur du Centre d'économie sociale au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et membre du groupe de recherche Acteurs, chercheurs, territoires d'économie sociale. Il est l'auteur d'ouvrages sur les coopératives et l'économie sociale et solidaire. Son dernier livre, paru en 2021, concerne le fait associatif dans l'Occident médiéval, de l'émergence des communs à la suprématie des marchés. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-François Draperie pour vous parler de ce livre.
Bien, merci à Françoise Pitra, merci à la médiathèque Françoise Sagan de m'accueillir. Je suis très heureux d'avoir été invité à cette soirée. Et voilà, je vais donc vous présenter cet ouvrage qui est paru il y a bientôt 2 ans maintenant et que j'ai écrit assez rapidement pendant le début de la pandémie et le premier confinement. Et c'est vrai, comme l'a dit Françoise, avant j'ai travaillé essentiellement sur les coopératives, les associations, l'économie sociale, l'économie solidaire, enfin même exclusivement en fait. Et pourquoi aborder cette question des riches et du capitalisme en fait? D'abord parce que les éditions Payot me l'a demandé, me l'a proposé, donc voilà, je les remercie aussi. Et puis aussi parce que c'était devenu inévitable d'une certaine façon, puisque certains d'entre vous le savent, avec la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y avait les grandes institutions historiques de l'économie sociale qui étaient incluses, bien sûr, comme les coopératives, les associations, les mutuelles. Ça aurait pu se discuter, mais enfin, voilà, par principe, leur statut les faisait entrer directement dans cet ensemble. Ensuite, il y avait le mouvement de l'économie solidaire qui s'était surtout développé autour de l'insertion par l'économique, puis autour du commerce équitable. Et puis, il y a une troisième entité qui s'est adjointe à ces deux-là, qui était l'entrepreneuriat social. Et qui était un mouvement très jeune, organisé dans un groupe qui s'appelle le MOUVES, Mouvement des entrepreneurs sociaux, et qui avait 5 ans, 4-5 ans, en 2014. Et donc la question c'était, mais que viennent-ils faire? Pourquoi sont-ils dans l'économie sociale et solidaire? Je vous dis tout de suite, moi je me suis dit, mais ils n'ont rien à y faire. Sinon, évidemment, je ne me serais peut-être pas trop posé la question. Mais je ne comprenais pas pourquoi l'entrepreneuriat social avait été inclus dans l'économie sociale et solidaire. J'avais déjà fait un article avant, en 2010, uniquement en ligne, ça s'appelait « L'entrepreneuriat social, un mouvement inscrit au sein du capitalisme ». Comme ça, ça a annoncé la couleur. Et donc, j'avais juste essayé de le décrire. Et ce qui me faisait penser qu'ils n'avaient rien à faire avec l'économie sociale et solidaire, c'est qu'ils étaient essentiellement des sociétés anonymes, composées de sociétés anonymes, et non pas d'associations, de coopératives ou de mutuelles. Ce n'est pas un indice suffisant, mais enfin quand même, à partir du moment où on est piloté, administré, géré par un pouvoir actionnarial et non pas par des bénéficiaires ou des travailleurs qui travaillent dans une coopérative, eh bien on peut se demander quelle est la finalité. Vous voyez, c'est juste une intuition au début qui dit mais qu'est-ce que viennent faire les sociétés anonymes dans l'ESS? Et puis il y avait une deuxième raison, c'est que la loi Hamon, la loi de 2014, elle inclut aussi toutes les fondations. Alors là, bon, ça veut dire que la fondation Total ou Bill Gates peuvent être de l'économie sociale et solidaire selon la loi française. Alors que, bon, on peut imaginer qu'elles poursuivent d'autres finalités, d'autres fonctionnements que l'économie sociale et solidaire historique. Alors, il faut relativiser les choses. La loi française les inclut, mais sur une vingtaine de lois relatives à l'ESS qui existent dans le monde, même pas la moitié inclut l'entrepreneuriat social. Par contre, toutes incluent les coopératives. Aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'en France, le mouvement associatif est le plus important en nombre de structures, en nombre de salariés, en nombre de bénévoles, à l'échelle mondiale, c'est le mouvement coopératif qui est le plus représentatif de ce que pourrait être une alternative à l'économie capitaliste. Pourquoi ? Parce que les coopératives sont un mouvement mondial, qu'elles ont généré des droits nationaux, elles se sont organisées à l'échelle mondiale à travers l'Alliance coopérative internationale. Vous voyez, c'est un peu le socle à partir duquel on construit comme ça des ensembles plus larges, dont l'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, la question qui se posait, une fois qu'on avait fait un peu ce constat rapide, c'est pourquoi, d'où vient l'entrepreneuriat social? Pourquoi émerge-t-il au début des années 2000? et que représente-t-il dans le capitalisme. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un bouquin qui analyse l'évolution contemporaine du capitalisme. Voilà. Et la thèse qui est proposée, c'est de dire en fait que le capitalisme est en train de muter. On a eu, avec la Renaissance et les grandes découvertes, un capitalisme commercial, hein, ou le mercantilisme. Avec la révolution industrielle au XIXe siècle, évidemment, le capitalisme industriel, plutôt patrimonial, entre les mains de grandes familles. Ensuite, un capitalisme managérial pendant les Trente Glorieuses, qui a vu monter l'essor des cadres, un management d'entreprise. Puis le capitalisme financier, j'y reviendrai sûrement à partir des années 75, quand le taux de rentabilité du capital dans l'industrie a chuté. À ce moment-là, on a vu naître le capitalisme financier. Et c'est ce capitalisme financier qui donne naissance à une nouvelle forme de capitalisme, selon moi, alors que certains appellent le philanthrocapitalisme, et que je préfère appeler, peut-être avec un peu d'ironie, mais pas uniquement, le capitalisme humaniste. Alors, un peu d'ironie, parce que, évidemment, le terme humaniste, quand on l'utilise comme ça, on se dit, c'est humain, c'est positif, c'est éthique, c'est moral, etc. Mais en fait, il y a un sens historique à l'humanisme qui n'est pas du tout celui-là. L'humanisme de la Renaissance, c'est le pouvoir de l'homme. Tout pouvoir de l'homme, c'est-à-dire l'homme n'est pas fait pour rester sur sa couche, il est fait pour conquérir le monde. C'est la naissance de l'homo faber, c'est la naissance de Prométhée positif, c'est-à-dire un Prométhée, celui qui vole le feu, vous savez, et qui se veut l'égal des dieux, et qui était un héros négatif. À partir de la Renaissance, il est perçu comme un héros positif, et il continue de l'être au sein du capitalisme. Donc, si vous voulez, le sens, l'humanisme peut être saisi dans un autre sens que le sens commun. Et c'est pas un hasard si les mêmes qui ambitionnent de changer le monde ont fondé le transhumanisme. Et c'est pas un hasard non plus si notre président de la République a renommé son parti Renaissance, qui est la période de la naissance de l'humanisme. Donc vous voyez, je pense qu'il y a un tournant très très important à la fin du Moyen-Âge, qui se passe en Italie du Nord et actuellement les Pays-Bas, à Florence en particulier, avec les Médicis, qui voient la naissance d'un capitalisme continental, qui ensuite va devenir mondial après ce qu'ils ont appelé les grandes découvertes, mais qui n'ont rien découvert, en fait. Ils ont détruit, mais ils n'ont pas découvert les autres continents, les autres cultures, mais qui donnent naissance au commerce au long cours, à l'ensecrètement des affaires, la fin de la transparence, la fin du commerce où on marchande, mais le début du commerce monopolistique, etc., etc. C'est la naissance du capitalisme. Donc, et l'humanisme est la pensée de la naissance du capitalisme. Vous voyez, donc, alors évidemment, quand j'ai dit ça à l'éditeur, il m'a dit, ah non, 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 mais c'est déjà assez compliqué ton affaire. Si en plus tu l'appelles capitalisme-humanisme, alors là, on ne va rien comprendre. Alors, j'ai pas tout à fait abandonné l'idée dans l'ouvrage, c'est-à-dire que j'ai quand même mis qu'on pouvait discuter de savoir si on l'appelait capitalisme-humanisme, mais je ne l'ai pas développé. Par contre, je l'ai développé dans le suivant, dont Françoise a eu la gentillesse de parler, là, sur la fin du Moyen-Âge, en fait, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Je me permets d'insister un petit peu pour démarrer sur cette période-là, parce que je pense qu'on a besoin de revenir, vous voyez, à mesure que la crise s'approfondit. Au début, on s'est dit, c'est le capitalisme financier. Puis après, maintenant, on se rend compte, même le capitalisme industriel, ça vaut peut-être la peine de le remettre en question, parce qu'il est quand même à la source des grandes pollutions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, jusqu'où on remonte comme ça? Donc, mon hypothèse, c'est qu'il faut remonter au Moyen-Âge pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mais l'essentiel du livre n'est pas là-dessus. Il est sur qu'est-ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années qui a donné naissance à... Je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat social uniquement, parce que l'entrepreneuriat social, c'est un concept très flou, très large. Il y a beaucoup de choses derrière. Les entreprises sociales, ça veut dire... Il y a aussi des assos et des COP qui prennent ce terme-là. Donc on ne peut pas parler de façon claire de l'entrepreneuriat social. Ce que je désigne, c'est le business social. C'est d'abord un business. Voilà. Ce n'est pas d'abord une entreprise. L'entreprise, c'est plus large que le fait d'avoir une finalité de business, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais d'abord le dire de façon comme un constat. Je vais dire ce qui s'est passé. Et puis après, j'essaierai de revenir un petit peu en arrière quand même pour expliquer comment on en est arrivé là. La thèse principale, c'est de dire, en fait, jusqu'au début du XXIe siècle, les pauvres étaient considérés comme de la main-d'œuvre bon marché. Les délocalisations, vous voyez, on a été un peu partout chercher les prix les plus bas pour produire tous les produits manufacturés. Voilà, c'est comme ça qu'on a délocalisé l'essentiel des activités dans les pays de l'hémisphère sud ou les pays les plus pauvres. Et puis il y a une espèce de lutte comme ça, d'abord le textile au Portugal, puis au Maroc, puis au Vietnam, puis en Afrique, voilà. Et on n'en finit pas. Et au début des années 2000, on voit un changement, c'est-à-dire que les pauvres ne sont pas seulement considérés comme de la main-d'œuvre bon marché, ils sont également considérés comme un marché de consommateurs. Donc c'est ça le grand changement. Un peu comme Ford avait fait dans le temps, vous savez, le Fordisme, je paye bien mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes voitures. Voilà. Sauf que là, ils ne sont pas mieux payés. Et donc il y a deux auteurs, Prahlad et Hart, deux économistes américains. L'essentiel vient des États-Unis, ça va sans dire. Deux économistes américains qui définissent une nouvelle théorie de marché qui s'appelle le BOP. Ils écrivent un ouvrage qui s'appelle « La fortune est à la base de la pyramide ». The fortune and the BOP, the bottom of pyramid. Ça a un peu passé de mode, mais par contre, ça a fait beaucoup, beaucoup d'émules. Alors, c'est quoi? C'est très simple. Vous imaginez une pyramide. Alors, ils l'ont dessinée sous la forme d'une pyramide. À mon sens, c'est même pas une pyramide, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, une pyramide, en haut, on a les riches, en bas, on a les pauvres. Donc, elle est extrêmement effilée, extrêmement haute et extrêmement large. Bon, c'est pour ça que je dis que ça n'en est pas une, en fait, parce que si on veut respecter les proportions réelles d'une pyramide avec un trait qui fait un centième de millimètre, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que ça fait un T inversé, en fait. La base est trop large. Voilà, un milliard d'individus qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et puis, elle est bien trop haute, puisque voilà, rien qu'en France, Charvès, le patron de Dassault Systèmes, gagne 1660 SMIC. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Et le SMIC, c'est déjà un haut salaire à l'échelle mondiale. C'est impossible à dessiner. Mais on part de l'hypothèse qu'il y a une pyramide. Et donc, l'idée de Prahlad et de Hart, c'est de dire que les 4 milliards, la moitié de la population mondiale, les plus pauvres, vivent avec moins de 4 ou 5 dollars par jour. Et ils ne profitent absolument pas des bienfaits de la civilisation, c'est-à-dire des produits des multinationales. Et donc, c'est un marché à prendre. Alors, évidemment, il est très pauvre. Donc, il faut accepter de faire des marges, des petites marges. Mais ils sont tellement nombreux que le marché est énorme. Et donc, ils évaluent la taille du marché. Et ils l'estiment entre, selon qu'on prend 1 milliard de pauvres ou 4 milliards, entre 5 000 milliards et 12 000 milliards de dollars par an. Donc évidemment, j'imagine que vous êtes comme moi, ça ne vous dit absolument rien. À partir d'un certain nombre, on ne sait plus. Eh bien, Bernard Arnault, donc, qui est bien placé pour estimer le marché du luxe, estime le marché du luxe annuel à moins de 300 milliards. Et pourtant, il se porte bien, hein, le marché du luxe, hein, en ce moment. Donc ça veut dire que le marché des pauvres, il représenterait entre 16 fois et 40 fois le marché du luxe. Jusqu'en 2003, il n'y a aucune multinationale qui est présente. Donc, il invite les multinationales à y aller. Et c'est ce qu'elles vont faire. Unilever va y aller parmi les premiers, Nestlé, et puis après Coca, même les ciments Lafarge. Enfin bon, il y a des centaines, toutes les plus grandes entreprises vont envahir le... Alors, évidemment, quand on va vendre des produits de beauté, des savons, comme le fait Unilever, ils ne peuvent pas vendre des flacons de shampoing de 200 millilitres. Ça représenterait un mois de travail en Inde. Donc, ils vendent des unidoses sous plastique. Mais bon, c'est Esso qui est le premier producteur de plastique, Coca le premier consommateur de plastique. Donc, dans un sens, ça alimente la machine, quoi. Et donc, qui vendent des unidoses. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître, y compris chez nous. C'est-à-dire que vous avez vu que dans les supermarchés, on a maintenant des produits qui sont vendus en plus petite quantité qu'avant, du fromage. Voilà, simplement, il est à 1 euro ou à 2 euros. Alors qu'avant, c'était vendu uniquement au poids. On adapte, vous voyez, la taille, les emballages, au porte-monnaie supposé des personnes. Et évidemment, plus on est pauvre, plus on paye cher le produit. Parce qu'évidemment, au poids, rapporté au poids, il est plus cher. Et donc, pareil, il fallait inventer des nouveaux circuits de distribution, donc Unilever embauche des femmes indiennes, les Shakti Women. Alors Shakti, c'est la force, c'est l'énergie, et c'est la déesse reine du panthéon hindou. Donc il y a toute une communication qui est faite autour des produits pour qu'ils apparaissent comme des produits merveilleux, etc. quoi. Par exemple, il y a un produit, une crème, qui permet d'éclaircir la peau. Et ils lancent une pub, ils sont un peu trompés ce jour-là, ils lancent une pub sur les télévisions indiennes en disant que voilà, ils présentent une famille indienne et les parents se désespèrent de ne pas avoir de fils qui puisse travailler suffisamment, gagner de l'argent pour sortir la famille de la misère. Ils ont une fille, elle a la peau sombre, mais elle utilise la pommade d'Unilever, Lovely, je crois que ça s'appelle, elle a la peau plus claire, elle trouve du travail, elle sauve la famille. Sauf que les mouvements de femmes indiens, qui sont très puissants, ils ont réagi immédiatement et ils ont été condamnés. Enfin, ça ne les empêche pas de recommencer ailleurs. Hein, voyez. Et en plus, ils ont défendu. Je développe un petit peu parce que je pense que ça permet d'aller sur autre chose que la question strictement matérielle ou financière dans la critique de ces ruses de riches. C'est-à-dire que Unilever va défendre sa publicité en disant « bah, il n'y a pas de raison, puisque les femmes riches américaines peuvent utiliser cette crème, il n'y a pas de raison que les femmes indiennes ne puissent pas aussi avoir la liberté d'utiliser cette crème. » Donc vous voyez, c'est intéressant sur ce qu'on appelle la liberté en fait, et qui est quand même un des maîtres mots de notre culture en fait, hein, et l'idée qu'on a le droit aussi d'avoir des principes qui sont contraires à ceux de la civilisation dans laquelle on est, ou de la société dans laquelle on est. Donc il y a vraiment, je crois, un problème culturel derrière que l'Occident, et en particulier les multinationales, n'ont pas toujours pas compris, ou en tout cas pris en considération. Enfin, ils ne veulent pas le prendre en considération. Le continent maintenant à conquérir, c'est l'Afrique, évidemment, et ils sont très présents. Ce n'est pas forcément très rentable, hein, ils ne réussissent pas toujours, mais... ils testent des produits, ils testent des stratégies commerciales et ils se donnent une image, parce qu'évidemment tout ça est dans une finalité sociale. Et donc le BOP est un petit peu la bonne raison pour laquelle on va investir dans la pauvreté. J'ai hésité en préparant cette soirée, en disant est-ce que je commence par des exemples qui nous concernent directement ici dans l'ouvrage. En fait, j'ai commencé par l'entrepreneuriat social en France avec des exemples concrets que vous connaissez, auxquels vous êtes confrontés ou auxquels vous adhérez, c'est possible. Et puis après, je termine par le BOP. Mais là, je me suis dit, bon, je commence par l'essentiel, enfin par la théorie générale, comme ça je donne la couleur d'ensemble, qui est simplement... Quand je dis il y a une mutation du capitalisme, c'est parce que le capitalisme financier génère tellement de richesses qu'il fallait les réinvestir et qu'elles sont réinvesties dans le social et l'environnemental. Et que c'est ça le marché aujourd'hui, le principal marché des multinationales aujourd'hui, c'est le secteur du social, la pauvreté en particulier, et de l'environnement. Et donc, évidemment, on le vit aussi dans notre société, avec une différence majeure, c'est que nous sommes dans des pays relativement riches, dans lesquels l'État intervient de façon importante dans la régulation des inégalités et de la pauvreté, quoi qu'on en dise, en dépit de la réduction de l'État-providence. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, l'État devient un marché. Les associations deviennent un marché. L'économie sociale devient un marché. C'est à ça qu'on assiste depuis 10-15 ans, c'est à la marchandisation de tout ce qui, hier encore, était considéré comme de la solidarité. Alors, on l'a vu pour celles et ceux parmi vous qui, je pense que vous êtes nombreux, qui êtes en lien avec les associations, on a vu comment on est passé du régime de la subvention au régime de l'appel d'offres, pour beaucoup d'associations, donc avec des mises en concurrence, avec des grandes entreprises, bon, comme le groupe SOS, par exemple, entre autres, qui ont fait leur métier, en fait, d'être capables de répondre à des appels d'offres. Et puis, ça s'est complexifié, c'est-à-dire que derrière, il y a des cabinets de consultants, donc c'est là où on voit la naissance de l'entrepreneuriat social, il y a des cabinets de consultants qui sont intervenus directement auprès des États pour produire les politiques publiques. C'est-à-dire que, bon, là, il y a eu un début de mini-scandale, là, récemment, je ne sais plus avec quel cabinet de consultants c'était, qui avait reçu beaucoup d'argent. McKinsey a été un acteur avant-gardiste dans l'entrepreneuriat social. Mais il y en a plusieurs. Il y a le Boston Consulting Group. Il y en a 5 ou 6, quoi. Tous les gouvernements, tous les ministres ont des rapports de ces cabinets de consultants lorsqu'ils arrivent en fonction. Et donc on a, de façon croissante, un exécutif, y compris dans tous les États européens, qui se trouve tiraillé entre des pressions, un lobbying extrêmement fort des multinationales via les cabinets de consultants, et puis évidemment les chambres, les parlementaires. On a bien vu cette tension, me semble-t-il, en tout cas, je l'ai un peu essayé de l'analyser un petit peu dans l'ouvrage, cette tension croissante où on voit les partis politiques les plus divers en France, les associations représentant les maires de France, les régions de France, les députés, etc., réagir par rapport à un rythme de modernisation, comme on dit, de l'État, qui allait au-delà, en quelque sorte, du pouvoir démocratique qui s'exprimait. Voyez, et ça, c'était vraiment tout parti confondu. C'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, on se dit, tiens, c'est autre chose qu'une ligne politique qui est à l'œuvre. C'est quelque chose qui dépasse les fractures politiques. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side.
Poursuivons l'écoute de la présentation du livre de Jean-François Draperie, Ruse de riches, pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde. Et cette présentation se tenait le 16 novembre 2022 à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement de Paris.
Le capitalisme financier et la révolution des nouvelles technologies a généré une nouvelle classe de milliardaires qui a investi d'abord dans des immeubles, dans des yachts. Alors les plus grands yachts sont passés d'un seul coup de 20 mètres à 100 mètres, puisqu'il y a tout un combat pour savoir qui aura le plus grand yacht. Bon, mais il arrive un moment, même en ayant des très grands yachts, on n'arrive pas à tout dépenser, parce que quand on a des milliards qui sont placés, ils rapportent toujours. Et donc, ils ont créé des fondations. Les plus grands milliardaires, donc on connaît tous évidemment la fondation Bill et Melinda Gates, mais voilà, il y a eu un essor des milliardaires et des fondations à partir des années 70-80 aux États-Unis. Et ces nouveaux milliardaires, en créant leur fondation, ont fait une critique de la façon dont les anciens milliardaires de la côte est des États-Unis, Rockefeller, Carnegie, etc., administraient leur fondation. On dit, mais ils administrent un peu à la papa, un peu comme des bureaucraties, c'est-à-dire ils financent des musées ou des hôpitaux ou des universités pendant des années avec des contrats pluriannuels et puis on n'en parle plus. Alors que nous, on va gérer nos fondations comme on a géré nos entreprises. On va faire du business. Ça, c'est ce qu'on a appelé la venture philanthropie, qui n'est pas vraiment un concept apparemment, c'est plutôt un outil de communication et qu'on a traduit en français par la philanthropie à risque. Évidemment, les fondations ne peuvent pas faire de l'argent directement, mais ils peuvent soutenir des entreprises qui ont une finalité sociale. Donc c'est comme ça qu'est né l'entrepreneuriat social. C'est la fondation Ashoka, avec son président Bill Drayton, qui était un conseiller de Jimmy Carter avant, qui a, dans le cadre de la Harvard Business School, dans les années 90, a conçu ce montage par lequel des grandes fondations finançaient et soutenaient des jeunes entrepreneurs sociaux qui souvent sortaient d'abord de Harvard et puis après d'école de commerce. En France, l'école de commerce qui a été la plus en pointe et la plus vite, c'est l'ESSEC. Après, il y a eu HEC, il y en a eu d'autres, mais c'est l'ESSEC qui a démarré. Et ils ont suscité la création d'entreprises à finalité sociale, ce qui en même temps avait tout à fait du sens pour bien des jeunes qui souhaitaient donner plus de sens à leur travail, et on ne peut pas les critiquer de cela, hein, c'est pas du tout. Je fais bien la différence entre toute une organisation, des règles qui sont administrées, et puis des personnes qui s'engagent dans ce système-là, et qui parfois en reviennent, hein, même si les études dans ces écoles de commerce et les réseaux sur lesquels ils ouvrent enferment quand même considérablement, il faut le dire. Ces fondations ont accompagné des jeunes dans la création d'entreprises sociales. Et ces entreprises sociales, elles ont pour particularité d'utiliser les nouvelles technologies, l'innovation technologique au service de l'innovation sociale. Évidemment, en travaillant, et dans les années qui précèdent, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs sociaux. J'ai voulu comprendre, on a échangé, bon, parfois c'était un peu tendu, un peu difficile, mais dans l'ensemble, on y arrivait. Et en fait, au début, moi, je pensais qu'il y avait une idéologie individualiste derrière qui suffisait à comprendre pourquoi ils créaient des SAS, des petites sociétés anonymes, plutôt que des coopératives ou des associations, en disant, un discours qu'on a souvent entendu, oui, mais les assos, l'Assemblée Générale, c'est lourd, prendre une décision, perdre du temps, il faut être réactif, il faut être efficace, etc., etc. Mais en fait, il y a une autre raison beaucoup plus importante, qui est qu'une coopérative ou une association, vous ne pouvez pas la revendre. Voilà, vous ne pouvez pas valoriser l'actif. Alors que le point le plus essentiel dans cette économie, ce n'est même pas la réussite économique. C'est la possibilité de revendre des actifs. Par exemple, je prends deux frères, deux jeunes qui ont créé une entreprise à Lyon pour faire du circuit court, simplement livrer des repas bio, vraiment un truc voilà, auquel on adhère spontanément tout à fait. Donc ils ont commencé vraiment avec un vélo, et puis après ils se sont installés, ils ont loué un petit local, et après ils se sont développés sur Romans et Valence, je crois, ils ont eu trois sites. Et puis, évidemment, ils avaient des adresses, et ils avaient donc un carnet d'adresses. Et Carrefour a racheté le carnet d'adresses. Et eux, à ce moment-là, ils ont gagné de l'argent. Avant, ils n'en gagnaient pas. Mais au moment où ils ont vendu à Carrefour, ils ont gagné de l'argent. Et après, ils peuvent devenir investisseurs. C'est à la fois « je t'aime, moi non plus » quoi, dans le couple entre l'investisseur et l'entrepreneur, parce que l'investisseur vient au secours de l'entrepreneur, mais il est aussi prédateur potentiel. À un moment donné, il peut le reprendre. Alors, ce qui peut aussi plaire à l'entrepreneur, parce qu'on peut être entrepreneur et vouloir développer son activité, on peut être aussi vraiment un créateur, et puis développer l'activité, puis après changer et recommencer. Voyez, ça se met en place de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les réseaux des fondations, il y a les cabinets de consultants qui viennent en soutien, il y a le réseau d'adresses qu'on obtient dans les écoles de commerce, C'est moins la qualité de la formation qui permet d'obtenir des un emploi. C'est avant tout l'insertion dans des réseaux. Et puis donc, la fondation, les cabinets de consultants, les jeunes, et le triptyque gagnant, c'est un jeune qui a fait une école de commerce, un qui a fait une école de droit et un ingénieur pour faire l'algorithme. Et ensuite, se présenter sur des marchés avec une mesure d'impact. Et on n'en fait pas tellement la critique, y compris dans l'économie sociale et solidaire. On dit, oh ben, c'est vachement bien de mesurer son impact, effectivement. Mais mesurer l'impact tel qu'on le mesure dans les écoles de commerce, c'est d'ailleurs déjà l'impact social. Excusez-moi, mais je suis peut-être un peu ringard. Mais je trouve l'impact d'une balle sur une cible. Bon, je trouve que le terme, il n'est pas... Enfin, on aurait pu... Vous voyez ? Bon. Donc, en fait, l'impact, c'est le résultat final, en quelque sorte. Mais peu importe la façon dont on obtient ce résultat. Or, il y a des sociologues, y compris des sociologues classiques, qui ont critiqué en disant non, il faut mesurer la façon dont on travaille aussi. Il faut voir les effets en termes d'insertion, en termes de salaire, en termes de formation, etc. Donc on a tout un ensemble de données à prendre en compte et aussi les conséquences adjacentes sur le milieu social, sur le territoire. Vous voyez ? Donc on peut dire que dans l'économie sociale et solidaire, on ne peut pas mesurer le résultat à partir d'un impact en disant combien de jeunes ont été inclus dans un emploi suite à telle action ou la récidive d'anciens détenus, vous voyez, c'est pas aussi simple, quoi. Voilà. Donc il y a une simplification extrême, mais ça fonctionne. Ça fonctionne avec les contrats impact social qui sont mis en place, qui ont été mis en place d'abord à Londres, en Angleterre, il y a une dizaine d'années maintenant, qu'on a tenté d'introduire en France, qui ont été repoussés, mais qui maintenant réapparaissent, qui sont simplement, je vous donne un schéma qui est en train de se développer, puis après, je vous dirai comment il se développe à l'échelle internationale. C'est des investisseurs. La base, c'est quand même qu'il y a des gens qui ont... Allez, ils sont blindés aux as. Ils ont beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est-à-dire que les parts dans des fonds d'investissement, ça peut être 500 000 ou 1 million d'euros. Vous voyez, c'est pas... vos économies. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui se situent uniquement sur les activités à finalité sociale ou environnementale, mais qui garantissent toujours le retour sur investissement. Donc, il y a le ROI, Return on Investment, et le Social Return. Ils ne sont pas fatigués. Hein. On mesure le retour social sur investissement comme on a mesuré le retour sur investissement, c'est-à-dire le retour financier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas parfois, mais... En général, ils se trompent, ça marche. Et ils fonctionnent avec du capital risque. C'est-à-dire ils prennent des parts minoritaires dans les entreprises dans lesquelles ils interviennent. Puis du capital développement, dans un second temps. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Des fonds d'investissement, il y en a des dizaines, voire des centaines maintenant, je ne sais pas, cherchent à investir. Des jeunes qui ont envie de donner du sens à leur travail... vont, par exemple, tel je prends un cas, Wire, soutenu par une fondation américaine, Fondation Base, qui se trouve à San Francisco, qui a un projet mondial. En fait, ils veulent remplacer les États. Donc c'est dit, c'est aussi simple. C'est ça, hein, il faut vraiment se dire qu'on a cette finalité-là. Hein. Et donc, Base accompagne les entrepreneurs sociaux qui vont entreprendre pour remplacer les services publics. Donc ils vont aller voir par exemple Pôle emploi. Pôle emploi fait un incubateur de start-up, la fabrique, héberge des jeunes qui ont des projets. Donc un projet, c'est nous avons une solution pour réduire le chômage en France de 10% en un an. Enfin, c'est ce genre de truc. Donc ils sont financés par l'État, par Pôle emploi, et ils y vont. Mais ça ne marche pas. Mais ils ont le droit à l'erreur. Ils se sont trompés, ils admettent qu'ils se sont trompés parce qu'ils sont humbles, mais ils sont toujours pleins d'espoir. Ils ont autre chose en fait. Et cette fois, ils disent on s'était trompé, il faut qu'on travaille avec les missions locales. Donc ils travaillent avec les missions locales du Val d'Oise, avec je crois qu'il y a 100 000 jeunes qui sont concernés. Et ils disent, c'est toujours un algorithme. Hein. Grâce à notre algorithme, on va trouver des solutions, on va changer d'échelle, puisque c'est un peu une obsession aussi, c'est changer d'échelle du changement. Plutôt que de travailler comme ça au cas par cas, nous, on va, grâce à notre algorithme, on va pouvoir traiter des masses. Et on va du coup trouver des solutions pour les jeunes qui sont en mission locale. Et ils touchent, pour démarrer, 50 000 euros pour mettre en place cette solution. Et on voit fleurir comme ça des offres de la part de start-up sociales ou de business social. Alors je reviens maintenant sur mon schéma initial. Donc ils ont une idée, ils sont financés par des investisseurs, des fonds d'investissement. Ils travaillent. Ensuite, il y a un évaluateur qui vient vérifier, qui vient mesurer l'impact. Et si le résultat est positif, l'État rembourse les investisseurs avec une valorisation de 7% de l'investissement. Voilà, c'est ça le système. Bon, comme en général, l'évaluateur, il a la même formation que les entrepreneurs, ça tombe pas trop mal, quoi. Je suis un peu rude, mais bon, voilà, c'est quand même... Au début, c'est ça, le projet, c'est ça. Il faudrait vérifier maintenant le livre à 2 ans, donc il est tout à fait possible maintenant qu'ils aient, comment dire, nuancé, peut-être ouvert à des associations, ouvert à d'autres structures. Mais au départ, et en Angleterre, c'était ça, quoi. Et ça se vérifie à l'échelle internationale. Donc je vais prendre un autre exemple maintenant, qui est, je ne sais pas si vous connaissez Gavi. Gavi, c'est l'Alliance pour le vaccin, qui a été montée par Bill et Melinda avec leur fondation. Donc je crois que c'est en 1999 qu'ils ont commencé. L'obsession de Bill Gates, c'est de vacciner les enfants du monde. C'est de vacciner tous les enfants. Donc il a monté un projet qui s'appelle Gavi pour vacciner l'ensemble des enfants. Voilà comment il fonctionne en gros. Il a réuni autour de la table l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'UNICEF, les États les plus riches, les grandes sociétés pharmaceutiques, la Banque mondiale, et il a créé une société financière pour le financement des vaccins. Et on va tout de suite traduire pour que je ne me répète pas, lorsqu'il y a eu le Covid, c'est lui qui a administré l'organisation de Covix, en fait, des vaccins pour soigner le Covid. Moi, j'en ai pas entendu parler à l'époque, cache pas. Mais j'ai pu le vérifier. J'ai lu des articles qui sont publiés aux États-Unis, donc où je l'ai. Et puis après, très tout bêtement, et ça vous pouvez le faire comme moi, je suis allé sur le site, vous tapez Gavi sur n'importe quel moteur de recherche et vous creusez un petit peu, vous verrez, c'est très facile. Et en fait, on a tout. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chez lire Le Monde diplomatique ou bien des journaux. Intéressant. On peut simplement en allant sur les sites des multinationales ou des fondations ou des fonds d'investissement, etc. Tout ce que je vous dis là, on peut s'en informer. J'ai juste fait un travail d'information et j'ai croisé les informations. Et donc, il a mis tout ce monde-là autour de la table et il a demandé aux États, vrai aussi pour les vaccins Covix, hein. Il a demandé aux États de financer la recherche des grandes entreprises pharmaceutiques en créant des obligations qui sont remboursables pendant 32 ans. Donc c'est les États ont versé près de 8 milliards de dollars pour financer la recherche sur les vaccins, avec une garantie donnée par l'ONU pour les entreprises qui trouveraient les vaccins qui ne tomberaient pas dans le domaine public, c'est-à-dire que les droits seraient maintenus. Vous voyez que l'Inde et les autres pays pouvaient toujours pleurer pour demander la gratuité des vaccins, ce n'était pas possible. Parce qu'il y avait un contrat de passé entre l'ONU, la fondation, c'est vraiment la fondation Bill Gates qui est à l'origine, hein, qui a avancé l'argent, etc., qui se rembourse après, hein, bien sûr. Et les pays donateurs s'engagent à acheter les vaccins en nombre. Mais le storytelling de l'ensemble, c'est voilà comment nous allons rendre possible l'accession du monde entier aux vaccins. Des pays pauvres en particulier au vaccin. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait une péréquation. Bien sûr, au départ, ce qui est vendu, y compris aux États, parce que lorsque ça se met en place au niveau du Covid, il y a 180 États qui sont autour de la table. Donc Bill Gates peut écrire « Nous avons convaincu le monde que c'était la meilleure solution démocratique pour que tout le monde puisse être vacciné. » On connaît la suite. Sauf que, évidemment, la suite, c'est qu'on ne pouvait pas réduire les droits des grandes entreprises. Ça faisait partie du contrat. Les chercheurs américains qui ont travaillé là-dessus appellent ça le dérisque. En fait, c'est une manière pour les grandes entreprises de ne pas engager de risques, de ne pas se risquer de perdre leur investissement dans la recherche. Il y a un dérisque qui est assumé par les États. Donc, c'est le même système que le contrat impact social, enfin le contrat qu'on voit au niveau des entrepreneurs sociaux. Mais il y a la même chose pour l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, avec des droits pris sur les semences. Voilà. Et bon, on pourrait multiplier au niveau financier, pareil, il y a tout un ensemble de montages. Alors vous allez dire que je suis complotiste après ça, mais dès ce soir ou demain, vous pouvez aller voir, c'est très simple, quoi. Cet exemple des vaccins, il n'est pas dans le bouquin parce qu'à l'époque, en tout cas moi je l'ignorais complètement, il n'y a pas encore eu de travaux là-dessus, mais le système est le même. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des grandes entreprises, par leur fondation ou directement par leur activité, donc par les fondations comme... alors il y a la fondation Rockefeller aussi qui est très... il y a la fondation Shell qui est très mouillée là-dedans. Bon. Et puis soit donc ces grandes fondations... soit les grandes entreprises, comme Unilever, tout à l'heure j'ai dit, pour le BOP, ou bien là, les grandes sociétés pharmaceutiques, qui privatisent en quelque sorte des activités qui, hier encore, étaient du domaine public. La santé, les services sociaux, etc. quoi. On peut faire la même analyse pour les prisons, on peut faire la même analyse pour l'armée. Il y a aux États-Unis plus de 120 sociétés militaires privées. Enfin, de sociétés privées qui interviennent partout. Quoi. Alors, il y a eu quelques articles sur cette question qui sont très intéressants. Donc, on assiste à une privatisation, en fait, de toutes les missions qui, hier encore, étaient de service public. Donc, ça permet de comprendre que, si on revient sur l'économie sociale et sur notre pays, vous voyez, l'économie sociale, sociale et solidaire était née dans les années 70-75. Au moment où les coopératives, les mutuelles et les associations commençaient à être en concurrence de plus en plus difficile avec les sociétés de capitaux. Donc elles se sont réunies, on dit nous ne sommes pas des sociétés de capitaux, nous sommes des groupements de personnes, et donc nous devons nous unir pour faire face à la concurrence toujours plus difficile face à laquelle on est avec les sociétés de capitaux. Grâce à Michel Rocard, il y a eu un secrétariat d'État à l'économie sociale et au développement local qui a été occupé par Jean Gattel, qui a été créé à cette époque. Après, c'est devenu une délégation interministérielle. Ensuite, on a eu un secrétaire d'État à l'économie solidaire, Guy Asquet, en 2000, lorsqu'il y a eu la loi sur les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et puis, quand Emmanuel Macron a été élu, ça a juste été un haut commissaire. Donc il y a eu un reflux de l'économie sociale. C'était Christophe Ithier, qui était le successeur de Borello à la tête du MOUVES. Donc, pour la première fois, ceux qui représentaient l'économie sociale et solidaire au niveau de l'État n'étaient plus des personnes venant des associations, des coopératives ou des mutuelles, mais qui venaient de l'entrepreneuriat social, même s'il a un passé associatif. Mais c'était juste un haut commissaire. Et puis après, on a eu de nouveau, avec Olivia Grégoire, une secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation. Et puis maintenant, Marlène Schiappa, qui communique mais qui ne connaît rien. Il faut dire les choses. Bon. Olivia Grégoire, elle a travaillé, mais elle était purement entrepreneuriat social. Je vous donne ma lecture. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un creux à un moment donné, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que en face de l'État, il y avait une économie sociale et solidaire qui était très bien organisée, avec les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, avec le CGS, l'ensemble des mouvements coopératifs, mutualistes et associatifs, s'étaient organisés. Ils avaient mis du temps, mais ils étaient bien organisés. Vous voyez, à partir du moment où l'entrepreneuriat social a communiqué et a réussi à convaincre, je ne sais pas comment il faut le dire, parce qu'on sait que Borello a été le prof d'Emmanuel Macron à Sciences Po, bon voilà, et que moi j'ai lu un ouvrage de Borello écrit 5 ans avant l'élection d'Emmanuel Macron, il y a le programme d'Emmanuel Macron concernant l'économie sociale.
Qui a été président des SOS aussi.
Et il a été président bien sûr du groupe SOS. En fait, tout se passe comme si à partir du moment où l'État avait pu retrouver une représentation qui était celle de l'entrepreneuriat social, alors on pouvait de nouveau mettre en place un secrétariat d'État. Bon, c'est peut-être un petit peu rapide comme analyse, mais voilà. Dans le bouquin, je n'ai pas parlé uniquement de tout ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai pris un exemple, j'ai pris un contre-exemple, parce que sinon, c'était un peu triste quand même. Donc j'ai pris un contre-exemple dans le secteur associatif ou coopératif ou mutualiste, parce que ce qu'il faut souligner, même si, c'est beaucoup, même si on l'entend moins, c'est que jamais le mouvement associatif et le mouvement coopératif, je ne parle pas des mutuelles, jamais ces deux mouvements n'ont été aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui en France et dans le monde. Donc, alors après on peut discuter de ce que c'est que la puissance du mouvement coopératif dans le monde, hein. C'est pas aussi simple, hein. Bon, y a de tout. Mais néanmoins, le cœur du bouquin c'est quand même d'étudier les stratégies des riches. Donc c'est quand même l'essentiel. L'essentiel du livre, c'est quand même d'étudier comment ils s'y prennent pour finalement gouverner le monde. Parce que là, on dépasse la question de l'argent. Que quand on est dans le transhumanisme, et on n'a pas parlé de Musk, voilà, on voit bien qu'on est au-delà de la richesse matérielle. On est vraiment dans des rapports de pouvoir globaux, quoi. Je pense qu'il y a aujourd'hui un risque de totalitarisme dans l'Occident en raison de la concentration des pouvoirs entre quelques mains. Alors évidemment, ça s'appuie sur un pouvoir financier. Ça, c'est clair que Bill Gates n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas eu le pouvoir financier. Mais le pouvoir financier, il continue de se concentrer. Il y a 5-6 ans, il fallait rassembler les 200 plus grandes fortunes du monde pour avoir l'équivalent de ce que possédaient les 4 milliards les plus pauvres. Aujourd'hui, 20 suffisent. Et peut-être que, comme mes chiffres datent de l'an dernier, peut-être que ça s'est encore réduit. Donc, on est dans une période tout à fait particulière. Cette émergence de nouveaux milliardaires, elle est singulière. On a eu l'équivalent à la fin du 19e siècle avec le pétrole et les voitures, toutes les grandes fondations de l'époque aux États-Unis. Et puis après, on n'a pas eu ce mouvement de cette nature. Vous voyez, on est dans une seconde phase, une deuxième phase, où on voit cette concentration de pouvoir de richesse et de pouvoir entre quelques mains. Mais là, avec la révolution des nouvelles technologies, évidemment, la concentration peut être beaucoup plus rapide et plus forte. Voilà. Donc je pense quand même qu'on est dans une prise de pouvoir de sphère privée sur l'intérêt général. Alors, mais vous voyez aussi qu'en même temps, on n'a jamais parlé autant des communs. Voilà, il y a un renouveau des communs. Il y a une créativité associative, un engagement bénévole qui continue de se développer. Les coopératives, y compris les coopératives de production, qui stagnaient plus ou moins, sont en train de croître à très grande vitesse. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, pareil, elles sont en plein développement. Donc, et on voit partout, avant c'était peut-être plutôt dans les villes, mais maintenant partout dans les villes comme dans les villages, en France comme dans pratiquement tous les pays du monde, on voit des initiatives citoyennes complètement indépendantes de ce système-là qui se mettent en place. Alors après, on va avoir des hybrides. Il va y avoir des hybridations. Il va y avoir des coopératives. Par exemple, dans les SIC, après tout, rien n'interdit un fonds d'investissement de venir dans une SIC. Je crois que c'est en train de se faire. C'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, c'est tout, ça va arriver. Et alors, il y a 1000 SIC en France. Voilà, c'est tout. C'est normal. Le statut ne suffit jamais. Il est nécessaire, mais insuffisant. Donc voilà, je ne veux pas laisser croire que parce que j'ai juste étudié les ruses des riches, qu'il n'y a pas de l'autre côté un mouvement extrêmement puissant de la part de la société civile. Au contraire, il est extrêmement puissant, il est fondamental. Dans le livre, à chaque chapitre, j'ai conclu par des initiatives qui contrecarrent et parfois qui contrecarrent vraiment ces politiques-là. Par exemple, la co-construction des politiques publiques, je prends quand même un exemple, il y a de tout dans la co-construction des politiques publiques, mais il y a des communes où il y a des véritables co-constructions des politiques publiques. C'est-à-dire que si les associations ne font que répondre à des appels d'offres qui sont déjà énoncés avec la complicité de cabinets de consultants, alors elles partent perdantes. Mais si elles interviennent en amont, comme elles l'ont fait très souvent, Après la Première Guerre mondiale, on ne parlait pas de co-construction à l'époque, mais elle promouvait en quelque sorte le travail social de telle façon qu'après, la politique publique s'adaptait pour légaliser en quelque sorte ou amplifier le travail social. Donc c'est tout à fait possible. Et ça se fait à des échelles micro, certes, ça se fait. Mais néanmoins, je suis optimiste parce que les collectivités territoriales commence à bien se rendre compte, quand elle lance un appel d'offres, eh bien, tout l'argent de cet appel d'offres qui va rester dans le territoire contribuera à enrichir le territoire. Et tout argent qui sortira du territoire contribuera à appauvrir le territoire. C'est simple. Et ça, les élus le comprennent très très bien. C'est-à-dire, il suffit de le dire. Il suffit de dire, vous avez de l'argent public, du territoire. On est d'accord pour considérer que la richesse d'un territoire dépend de la richesse matérielle, de la quantité d'argent qui circule sur le territoire. Alors, quand vous lancez un appel d'offres, que va devenir l'argent? Où va aller l'argent? Et donc, si c'est des entreprises, des petites entreprises locales ou des entreprises de l'économie sociale qui le gèrent, l'argent restera sur le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les élus entendent très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils savent le faire. Mais ça, les associations et les coopératives sont là pour les aider. Là, on doit... Je termine là-dessus. Je crois que, je dis on, en présupposant que vous êtes, partenaire au moins de l'économie sociale et solidaire, mais je pense que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, elle doit changer de braquet en quelque sorte dans son raisonnement. C'est-à-dire on continue de raisonner très largement à l'échelle de l'association, de la coopérative, de l'entreprise, alors que aujourd'hui les questions qui se posent, c'est les questions de développement, de territoire. Comment on vit sur un territoire, de l'évolution des milieux naturels, des milieux humains. Comment on fait, quoi? Parce que sinon, on sait très bien qu'il y a des territoires qui vont être abandonnés. Donc comment on fait pour vivre sur un territoire? Et je crois que répondre à cette question nécessite de sortir de la logique entrepreneuriale et d'entrer dans une logique anthropologique, voilà, qui dépasse complètement les égos qu'on peut avoir dans ses propres structures, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.